À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, si vous nous rejoignez. Le 6 novembre dernier était la journée nationale non au harcèlement. Et pour aborder non seulement la lutte contre le harcèlement entre élèves, mais aussi les actions de prévention qui peuvent être mises en place dans les établissements scolaires, je reçois donc aujourd'hui pour notre émission deux invités, Anaïs Zuena, AED, donc assistante d'éducation, référente anti-harcèlement au lycée Baudereau-Chasse à Digne-les-Bains, et Mélissa Charrier, ambassadrice dans le même établissement, donc au lycée Baudereau-Chasse, ambassadrice depuis l'année dernière. Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour qu'on revienne sur la journée nationale non au harcèlement, le 6 novembre. On rappelle que le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, et que cette forme de violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Et depuis la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, ce phénomène est reconnu comme un délit. Voilà, alors pour situer un petit peu vos missions, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis nous dire un petit peu quel est votre rôle dans votre établissement en termes de lutte contre le harcèlement scolaire?
Oui, alors moi je suis AED depuis 3 ans et demi à peu près, et vraiment quand je suis rentrée dans l'établissement, c'était mon but de mener un combat contre le harcèlement scolaire. Donc j'en ai parlé très vite à la CPE que j'aimerais monter un groupe phare, et c'était pas encore obligatoire dans les lycées à cette époque, et ça a été obligatoire l'année d'après. Donc voilà, on a monté ce projet. On a monté une équipe d'ambassadeurs et on les a formés. J'ai été formée aussi parce que j'étais pas du tout là-dedans. Et voilà, notre but, c'est vraiment de sensibiliser, d'encourager la parole. Voilà, que les victimes viennent en parler, que les témoins viennent signaler qu'ils ont vu quelque chose qui n'était pas normal. Et voilà, c'est vraiment ça, parce qu'on a encore trop d'élèves qui ne disent rien. Des victimes qui minimisent, qui se disent « c'est pas si grave » et qui finissent par craquer avant que nous on soit au courant, et donc on peut rien faire. Donc vraiment, c'est dire le plus fort possible et le plus souvent possible « parlez-en ».
Alors, vous avez parlé du rôle d'ambassadeur-ambassadrice. Qui peut être ambassadeur ou ambassadrice? Je crois qu'on en a une justement dans le studio. Mélissa, c'est ton rôle. Toi, tu es ambassadrice aussi?
Oui. Ambassadrice harcèlement, du coup, depuis l'année dernière. Beaucoup d'élèves qui veulent le faire peuvent demander à rejoindre les ambassadeurs, à se faire former pour pouvoir rejoindre toute cette petite équipe d'ambassadeurs harcèlement.
Et ça consiste en quoi, alors, d'être ambassadeur ou ambassadrice?
On est des porte-parole. Les élèves peuvent venir nous voir pour s'ils ont vu une situation d'harcèlement ou si eux-mêmes sont en situation d'harcèlement, pour demander de l'aide ou prévenir tout simplement avant qu'il soit trop tard.
Et comment les élèves savent qu'ils peuvent s'adresser à vous? Est-ce qu'il y a un signalement en début d'année, voilà les nouveaux ambassadeurs ou les nouvelles ambassadrices? Comment ça se passe?
Alors, je voudrais rajouter aussi que l'intérêt d'avoir des élèves ambassadeurs, c'est que c'est plus facile pour eux déjà d'identifier les situations problématiques, parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont dans les classes, ils sont à l'internat, ils sont dans la cour, donc ils sont plus à même de voir. Et les élèves aussi, qui sont victimes ou témoins, vont probablement plus facilement se confier à un élève aussi, ils ont plus confiance.
Et oui, c'est un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée.
C'est ça.
Et comment on est amené à se positionner? Toi, tu avais déjà pensé à te proposer pour ce rôle-là? Est-ce que ce sont des professeurs ou du personnel enseignant qui t'a encouragé à le faire? Comment ça s'est passé?
Ben, moi, c'est Anaïs, justement, qui m'a proposé de le faire. Donc, j'ai accepté parce que ça m'intéressait aussi. Je trouvais ça bien, ce système d'ambassadeur pour pouvoir aider les élèves.
Et comment ça s'est passé? Si ça fait donc un an, tu as été ambassadrice toute l'année dernière, comment ça s'est passé pour toi?
Ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai eu quelques personnes qui sont du coup venues me voir par rapport à ça, où on a pu essayer de régler leurs soucis, de faire notre rôle en fait.
Et vous avez parlé d'une formation pour pouvoir être ambassadeur ou ambassadrice ?
Oui, alors il y a la formation phare, donc ça c'est plutôt en interne avec nous qui avons été formés, on les forme un petit peu à notre tour. On a aussi reçu les élèves du Borély, du collège Borély, qui eux, ça fait des années qu'ils font ça, ils sont très très formés, ils sont venus nous former, nous et les élèves. Et nos élèves, l'année dernière, ont présenté en début d'année, ils ont fait un PowerPoint, une présentation qu'ils ont présentée à toutes les classes entrantes sur, voilà, c'est quoi le harcèlement, comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait, comment agir. Et donc, ils l'ont présenté à toutes les classes entrantes, ce qui fait qu'ils ont pu être identifiés comme référents, parce que c'est vraiment les élèves qui l'ont fait et qui l'ont présenté. Et après, nous, on a fait le choix de ne pas faire de photos dans le lycée pour les représenter parce qu'on veut pas non plus qu'ils soient stigmatisés et que à chaque fois que quelqu'un vient leur parler on se demande s'ils parlent de ça.
Oui, il faut pas de stigmatisation et donc pas de trombinoscope dédié aux ambassadeurs ambassadrices, mais enfin c'est une fonction qui est ouverte quoi, j'imagine.
Tout à fait. Voilà, alors là comme ça faisait pas encore très longtemps qu'on fait ça, c'est pas encore ancré, on a peu d'élèves qui viennent se présenter d'eux-mêmes pour en faire partie. Enfin, ça commence cette année, j'ai deux élèves qui sont venus se présenter. Donc c'est plutôt nous, l'équipe pédagogique, on a vu voilà, les profils qui pourraient être d'accord et qui pourraient être investis dedans. Et on ne s'est pas trompé. Ben, franchement, ça fait deux ans qu'on a une super équipe. Mais bon, après, quand les terminales s'en vont, ben, il faut recruter des nouveaux. Et, bon, ça va, cette année, on y arrive. J'ai des petits nouveaux aussi pour cette année qui sont présentés. Donc,
Et à quel point c'est engageant ? Est-ce que ça demande beaucoup de temps ? Qu'est-ce que ça implique comme qualité ? J'imagine qu'il faut être à l'écoute, être assez disponible.
Oui, à la fois pas non plus trop, parce que comme tous les autres élèves du lycée, on a aussi des cours. Mais ils peuvent tout simplement venir nous voir à certains moments ou à certains endroits quand ils veulent nous parler ou demander justement, par exemple, à Anaïs ou à un autre référent à harcèlement, savoir s'ils pouvaient parler avec un de nous, à quel moment et qu'on pourrait le rencontrer.
Et vous êtes plusieurs, là il y a plusieurs ambassadeurs ou ambassadrices. Combien êtes-vous pour le lycée Baudrochas, et est-ce que vous êtes amené à travailler ensemble ou est-ce que c'est quand même plutôt solitaire, parce que quand les personnes viennent nous voir, j'imagine que c'est plutôt individuellement.
On a à peu près une dizaine. Après, chaque élève choisit de rencontrer une ou plusieurs personnes, mais en général, c'est par groupe de deux à peu près qui viennent nous rencontrer ou pouvoir discuter.
Alors après, ils se retrouvent quand même tous quand on travaille sur un projet. Donc, par exemple, faire le diaporama à présenter aux élèves entrants, parce que cette année, ils vont le refaire aux nouvelles classes entrantes, mais ce sera en décembre, parce qu'on s'y est pris un petit peu tard cette année pour le faire, et avec les stages, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ce sera fait en décembre. On aurait voulu le faire en octobre, mais bon, c'est pas grave. On a aussi, voilà, ils se sont réunis aussi pour organiser la journée non harcèlement, parce que nous, on l'a pas faite le 6, on l'a fait le 13. Voilà, on est en décalé par rapport aux stages, aux vacances, voilà, plein de choses qui font qu'on la fait un petit peu plus tard, mais l'important, c'est de la faire. On travaille aussi sur le concert qui va être reporté cette année, donc au mois de mai. Donc là aussi, ils vont travailler ensemble. Et on essaye de se réunir de temps en temps, mais bah, c'est compliqué avec les horaires de chacun. On ne se réunit pas assez souvent.
Oui, alors la journée non-harcèlement, la journée nationale officiellement, c'était donc le 6 novembre, mais vous, donc, vous proposez une journée le 13. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer cette journée ? Qu'est-ce qui est au programme et comment...
Oui, alors il y aura tous en bleu, un dress code tous en bleu, avec un goûter prévu pour ceux qui ont joué le jeu. On espère qu'ils soient nombreux. Il y aura des petits ateliers, donc on a fait un harcélomètre, on l'a reproduit, ils devront placer les actions dans la bonne couleur, savoir si c'est grave, pas grave, pour qu'ils prennent conscience un petit peu des actes qui peuvent paraître anodins pour certains, alors qu'ils peuvent être très mal vécus. Il y aura un jeu de loi sur le harcèlement, un jeu de cartes avec du vrai-faux. Il y aura normalement le groupe de musique qui va faire une chanson. On a un collègue AED aussi qui a écrit un rap sur le harcèlement, donc il va le présenter. Voilà, après il y aura une table aussi de recrutement pour les nouveaux référents. Et puis bon, toute la journée, voilà, ils sauront que il y aura, oui, il y aura des clips aussi qui seront diffusés normalement à la cafétéria sur la télé.
Et donc ça dure toute la journée.
Ça dure toute la journée. Après, vient qui veut entre les cours. Voilà.
Ouais, c'est un événement ouvert. Est-ce que c'est la première édition? Est-ce que
Alors on l'a fait l'année dernière, mais c'était moins bien préparé. On a distribué des bracelets. On a fait un grand NAH dans la cour.
Il y avait aussi un stand à photos où on pouvait faire des photos avec sa classe, avec des accessoires.
Et vous disiez que le collège Borély, donc à Digne, est plus habitué, qu'ils ont fait d'autres éditions. Ça veut dire que vous êtes en contact avec d'autres établissements vous...
Alors, on a été pas mal en contact avec le Borély les premières années parce que eux, ils nous ont un petit peu formés, ils nous ont un petit peu expliqués. Donc, on a été en formation là-bas. Et puis, les collégiens sont venus. Et puis, on est allé aussi l'année dernière au collège Borély avec les élèves ambassadeurs. Mais sinon, nous, on travaille quand même chacun de son côté. Hein.
Et est-ce qu'il y a des problématiques typiques du lycée? Parce que, donc, on a dit Borély, c'est un collège. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des différences entre les collèges et les lycées? Ou est-ce que, ben, globalement, c'est quand même un peu la même façon de fonctionner? Il y a des choses qui reviennent, qui se recoupent?
Alors, on sait quand même que plus ils sont petits, plus ils sont méchants. Le harcèlement, ça concerne quand même les 6-18 ans, donc ça commence très tôt. Voilà, là c'est comptabilité au primaire, mais à la maternelle, on sait que ça commence, les moqueries, un petit peu les violences, et après c'est... On sait que c'est au collège qu'ils sont le plus...
Comment virulents.
Voilà, virulents. Mmh. Au lycée, ils sont un petit peu grands, donc c'est différent, c'est une approche différente, c'est moins violent, c'est déjà beaucoup plus par Internet. Mmh. Au lycée, ils ont tous le téléphone, ils l'ont tout le temps. Donc il y a beaucoup de cyberharcèlement, plus que directement. Voilà, directement, on n'a pas beaucoup de situations et malheureusement, quand il y en a, ils n'en parlent pas.
Et est-ce que vous avez des chiffres à communiquer d'ailleurs sur...
Alors, les chiffres en France sont tombés. Il y avait 24% des élèves en 2024 qui étaient victimes de harcèlement, donc entre 6 et 18 ans. Et cette année, en 2025, on est à 35%. Donc voilà, c'est énorme. Ça augmente, c'est exponentiel.
Qu'est-ce que vous diriez de la capacité des adultes ou même simplement des proches à percevoir ces situations? Est-ce que le vécu des enfants, des adolescents, adolescentes a tendance à passer inaperçu, à être minimisé ou est-ce qu'au contraire, on est de plus en plus à l'écoute de ces situations?
Alors, on est de plus en plus à l'écoute parce qu'on en parle de plus en plus, donc les gens sont de plus en plus au courant. Mais les élèves qui subissent vraiment du harcèlement, qui sont profondément blessés, c'est ceux qui sont le plus renfermés sur eux-mêmes et finalement, c'est ceux qui en parlent le moins. Voilà, donc nous, on va intervenir sur des situations qui sont vraiment aux prémices du harcèlement. C'est voilà, l'intimidation. Là, quand on nous en parle, c'est réglé très vite. Et en fait, phare, c'est ça, c'est régler les problèmes avant qu'il y ait le harcèlement, finalement. C'est voilà, dès qu'il y a l'intimidation, dès qu'il y a des situations qui sont problématiques, il faut les régler tout de suite, couper l'herbe à la racine. Et du coup, normalement, ça s'arrête assez rapidement.
Oui, c'est pour mettre en place des mesures de prévention pour éviter c'est que ça arrive, agir avant que ça n'arrive. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de signaux sur lesquels il faut être attentif, que vous avez pu observer?
Ah ben, un élève qui mange toujours tout seul à la cantine, des élèves qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui sont souvent seuls, ou alors les résultats scolaires baissent, un fort absentéisme, enfin il y a plein de choses qui peuvent alerter.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ah ben, on essaye de voir l'élève, voir ses camarades d'abord, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème avec telle personne? Est-ce que tu peux essayer de surveiller, voir toi ce que tu en penses avant que... Parce que bon, on ne peut pas savoir. Des fois, c'est des problèmes familiaux. Il ne faut pas non plus créer non plus un malaise. Donc voilà, on essaye de savoir un petit peu par d'autres biais.
Donc il y a ces signaux. Ensuite, vous essayez d'évaluer la situation, voir si c'est un cas de harcèlement ou pas. Et dans le cas où c'est un harcèlement, est-ce qu'il y a un protocole à suivre, des dispositifs particuliers?
Alors les protocoles sont plus faits quand même quand c'est pas encore du harcèlement avéré. Ça veut dire, ça s'appelle la méthode de préoccupation partagée, pardon, c'est dur à dire. Et en fait, on va recevoir, l'idée c'est de casser le groupe. Parce que souvent, quand il y a harcèlement, il y a un groupe. C'est l'effet de groupe parce que... un harceleur tout seul, il ne fait pas grand-chose. Et donc, c'est de recevoir les élèves séparément pour leur demander qu'est-ce qui se passe avec cet élève-là. J'ai remarqué qu'il n'était pas bien en ce moment. Est-ce que tu peux y faire attention. Et dans le groupe, on sait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait quelques élèves qui ne soient pas d'accord avec cette situation, qui se rendent compte que c'est pas bien. Et le fait de leur faire prendre conscience que l'élève ne va pas bien, ça peut les faire réfléchir et du coup arrêter. Et ça casse le groupe et donc du coup, le harcèlement a moins de force.
D'accord, donc c'est surtout la dynamique de groupe qui génère du harcèlement. C'est à ça qu'il faut être attentif. C'est intéressant de parler de dynamique collective parce que quand on pense harcèlement, on peut penser d'abord à la victime et il se trouve qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont concernées.
Tout à fait.
Il y a la victime, mais il y a les proches. Peut-être on pourrait dire aussi un mot du personnel de l'établissement ou des parents, par exemple. Quel rôle peuvent jouer toutes ces personnes ?
Alors, les parents sont souvent les derniers au courant. Quand les parents nous appellent en colère, souvent, « Mon enfant se fait harceler depuis des mois, vous ne faites rien. » Mais le problème, c'est qu'on n'a pas été mis au courant. Donc, c'est vraiment notre objectif premier. C'est pour ça qu'il y a des élèves ambassadeurs, c'est pour vraiment libérer la parole. Parce que les élèves ambassadeurs ont interdiction, c'est pas leur rôle de régler les problèmes. C'est absolument pas leur rôle. Leur rôle premier, c'est de recueillir la parole et d'encourager les victimes et les témoins. Faut pas oublier l'importance des témoins, de parler.
Oui, d'ailleurs, on peut peut-être préciser que donc sur le site EduSCOL, on peut trouver une brochure à l'adresse des parents sur lesquelles il y a un petit questionnaire sur les activités de l'enfant, l'activité de l'enfant en ligne aussi, et le comportement de l'enfant pour que les parents puissent repérer aussi quelques signaux. Donc ça, ça peut être un document à consulter. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour des parents qui voudraient éviter que ça arrive à leurs enfants?
La communication, voilà, vraiment beaucoup parler à son ado. Mais bon, l'adolescent, c'est un être à part quand même. Hein. Il est souvent seul dans sa chambre, en plus avec le téléphone maintenant. Enfin, moi, j'ai ma fille qui est adolescente. Elle rentre à la maison, elle s'enferme dans sa chambre avec son téléphone. Donc,
Oui, donc c'est pas les parents qui vont forcément être les premiers interlocuteurs.
Non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour les enfants parce que l'adolescence, déjà, c'est une période très compliquée. Et si les enfants ne parlent pas, c'est... Alors, parfois, ça peut... Voilà, avec la volonté de l'enfant de ne plus aller à l'école, ça, par contre, c'est un gros signal d'alerte. Les notes qui baissent, voilà, mais sinon, il y a... Le comportement lui-même à la maison, les enfants, la plupart, ils cachent très, très bien les choses. Hein. Ils sont très forts à ça.
Bon, alors, si on ne se tourne pas vers les parents, dans un premier temps, en tout cas, il y a donc les ambassadeurs ou les ambassadrices. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être des personnes ressources aussi
Oui, mais après, rien que les professeurs, parce qu'un professeur, quand même, qui connaît les élèves, qui les a toute l'année, et quand même, il a un grand pouvoir de voir les changements de comportement d'un élève. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde. C'est vraiment un travail collectif, et tout le monde est acteur.
Oui, parce qu'il faut toujours aussi préciser qu'on pense au cas où ça a lieu dans l'enceinte de l'établissement, mais évidemment, ça ne se limite pas à l'établissement scolaire. Le harcèlement, ça peut aller dans la rue, sur le trajet pour aller à l'école. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme autre type de harcèlement? Évidemment, il y a le cyberharcèlement.
Il a été reconnu depuis quelques années, j'ai plus la date, mais que le harcèlement entre établissements était reconnu. C'est assez récent. Ouais. Donc, par exemple, entre deux lycées, entre deux collèges, entre eux. Et un élève est un élève du début de l'année jusqu'à la fin de sa scolarité. Ça veut dire que même les vacances, même les week-ends, il est toujours considéré comme un élève. Donc, même si il embête quelqu'un pendant les grandes vacances, ça reste du harcèlement scolaire.
Alors, est-ce qu'on peut définir peut-être un peu le cyberharcèlement ? Mélissa, si tu veux bien.
Alors, le cyberharcèlement, c'est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement qui peut s'exercer à travers diverses réseaux sociaux, plateformes où ils peuvent parler tout simplement ou voir quelque chose.
Et c'est très, très problématique parce que les élèves sont connectés H24.
Oui, ça peut prendre différentes formes, comme des intimidations, des insultes, des moqueries, des menaces, évidemment. Les atteintes.
Et c'est directes. Tellement facile de dire du mal derrière un écran qu'ils ont beaucoup moins de filtres derrière un écran qu'en face à face. Donc c'est très, très violent. C'est très violent et c'est omniprésent et c'est... il peut y avoir beaucoup de personnes sur... par exemple, sur une photo, ça va être partagé, ça va être commenté par des gens mais qu'on ne connaît même pas. Ça dépasse les frontières, en fait. Le cyberharcèlement, c'est pour ça que c'est un fléau. Parce que là, par contre, en plus, pour trouver les auteurs, pour trouver les responsables, entre les... ça peut toucher tellement de personnes, c'est très compliqué de remonter à toutes les personnes qui ont participé à ça.
Oui, puis ça peut prendre, on pense d'abord aux formes les plus directes comme des insultes ou des menaces, mais ça peut prendre une tournure un peu plus insidieuse comme la propagation de rumeurs, par exemple,
c'est ça, tout à fait.
Diffusion de photos. Et ça, c'est peut-être là aussi où c'est plus difficile à repérer et à prouver peut-être après, parce que voilà, encore une fois, la question qui se pose, c'est... si on arrive à repérer un phénomène, là par exemple en ligne, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Qu'est-ce qui se passe pour limiter ?
Ah ben là, de toute façon, nous, dès qu'on sait, parce que bon, en général, quand c'est sur Internet, on finit par le savoir, parce que tout le monde le voit et il y a toujours des bonnes consciences qui vont le signaler à un adulte. Et là, c'est, ben, on essaye de trouver d'où ça vient, mais on dit à l'élève d'aller porter plainte. Là, de toute façon, là, nous, on ne peut pas. C'est compliqué de gérer ça, ce qui est sur Internet.
Oui, ça dépasse le ressort de l'établissement.
Complètement, oui.
Et ça pourrait être intéressant aussi de dire quelques mots de... Là, on parle souvent de la victime, on a parlé un peu des parents, du personnel enseignant, mais qu'est-ce qu'il en est des élèves qui s'avèrent être auteurs ou autrices de harcèlement ? Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances qui amènent à cette situation ? Qu'est-ce qu'on sait des motifs, des motivations ? On a évoqué l'effet de groupe, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
Alors, il y a tellement de possibilités. Il faut savoir qu'il y a une espèce de triangle entre les témoins, les harceleurs et les harcelés. Et ça tourne, en fait, ce qui fait qu'un harceleur peut devenir victime, une victime peut devenir harceleur, un témoin peut devenir victime ou harceleur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est interchangeable à l'infini. Et les harceleurs, ben, c'est par jalousie, par manque d'estime de soi, par manque de confiance. Il y a malheureusement tellement de raisons qui peuvent intervenir. Ça peut être souvent d'anciennes victimes de harcèlement. Ils disent « moi j'ai été harcelée, il n'est plus question que ça m'arrive, donc c'est moi qui vais harceler ».
Ah oui, dans ce sens-là, ouais.
Oui, ça arrive. C'est assez courant. C'est assez courant que ce soit d'anciennes victimes.
Oui, parce qu'on pourrait penser que l'ayant vécu, on ne veut pas le faire vivre à quelqu'un d'autre, mais à l'inverse, il peut y avoir un mécanisme de défense.
C'est ça, voilà, eux, ils prennent ça pour de la protection. Mais...
Et vous pouvez bénéficier parfois de l'aide de psychologue, justement, pour mieux comprendre ces mécanismes.
Alors, c'est jamais arrivé, donc peut-être que si un jour on en a besoin, je ne sais pas comment ça peut se passer. Après, on a quand même la psychologue conseillère d'orientation qui est quand même psychologue. Donc oui, on a quand même des personnels ressources.
Vers qui vous tournez.
Vers qui nous tournez quand vraiment on est dans l'impasse, bien sûr.
Ouais. Et alors, on a parlé plusieurs fois du programme phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus précisément ? C'est un dispositif qu'on retrouve partout ? Est-ce que c'est facultatif,
c'est partout, donc c'est obligatoire dans les collèges depuis plusieurs années. Dans les lycées, ça fait du coup deux, trois ans, je ne sais plus exactement. Dans les écoles primaires, ils ont aussi un protocole, mais c'est très compliqué à appliquer dans les écoles primaires parce qu'il n'y a que des enseignants. Il n'y a pas de personnel autour, donc ils n'ont pas forcément le temps ni les ressources. Voilà, donc phare, c'est sensibiliser, encourager, voilà... En parler pour qu'on sache que ça existe. Et après, donc, faire ces entretiens individuels pour essayer de casser les groupes. Voilà, le soutien à la victime, toujours. Maintenant, c'est l'élève harcelé qui peut changer d'école. Avant, c'était toujours l'élève qui était harcelé, qui devait changer d'établissement. Maintenant que c'est reconnu comme un délit, c'est l'élève harceleur qui est plus encouragé à quitter l'établissement.
Oui, phare, ça s'inscrit dans le cadre des mesures préventives. C'est un plan de prévention du harcèlement entre élèves fondé autour de plusieurs piliers, donc éduquer, former, intervenir, associer et mobiliser différentes instances. Ça s'articule autour d'un échéancier. Il y a plusieurs actions que vous mettez en route au cours de l'année. Comment ça s'organise ?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, nous, on a eu le niveau 1. Et pour obtenir le niveau 2, il faut... alors, c'est 10 heures de formation par élève sur l'année. Pour avoir le niveau 2, il faut sensibiliser les parents aussi. Donc là, on est en train de réfléchir à comment faire. Parce qu'en lycée, on n'a pas les parents tous sur place, parce qu'on a beaucoup d'élèves internes. Donc voilà, comment on peut faire pour les parents. C'est la journée NAH, c'est toutes les actions qu'on fait qui vont nous permettre d'avoir le niveau 2.
Et il y a une plateforme phare à laquelle le personnel éducatif peut accéder. Est-ce que ça concerne aussi, les parents, ou est-ce que c'est vraiment limité au personnel éducatif?
Alors, les parents peuvent tout à fait s'y rendre, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est pas du tout accessible qu'au personnel éducatif.
Et est-ce qu'il y a d'autres temps forts, justement, que vous voudriez souligner, puisque là, vous parlez de la journée NAH non au harcèlement. Est-ce qu'il y a des spécifiques à votre établissement, par exemple, ou même de façon plus générale?
Alors, les temps forts, nous, qui sont prévus cette année, c'est donc la journée NAH, la présentation du diaporama à toutes les classes en 30. Le clip, qu'on va faire un clip pour présenter au prix non au harcèlement, c'est au mois de janvier. Et après, le concert au mois de mai, et on va essayer de le faire avec d'autres lycées. Voilà, que ce soit plus ouvert à d'autres lycées. Bon, c'est pas encore très bien, très bien bouclé.
Oui, mais ça, vous avez encore le temps de le préparer. Là, la prochaine date, donc en tout cas, on peut rappeler que c'est le 13 novembre. Est-ce que Mélissa, tu veux rappeler un petit peu qu'est-ce qui va se passer le 13 novembre pour les personnes qui prendraient l'émission en cours de route? Elle est consacrée à quoi cette journée?
Cette journée, c'est consacrée à la journée non au harcèlement. Et y faire beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers où les élèves pourront passer entre les cours pour tout simplement voir, y participer.
Il y aura comme un photobooth un peu. Donc voilà, on a créé des affiches, non harcèlement, le respect c'est stylé, enfin des trucs comme ça. Et en fait, ils vont poser avec l'affiche, avec des petits mots positifs contre le harcèlement.
Et c'était quoi cette photo l'année dernière? Ça a pris quelle forme?
Alors en fait, c'est des élèves qui ont formé un grand N, un grand H, et un grand A et un grand H. Et en fait, ils ont été pris en photo du toit.
Ah
du
oui.
Lycée, voilà, vraiment
plutôt
en contre-plongée. Voilà, et ça donnait super bien. Mais c'était compliqué à mettre en place.
Alors là, on a rappelé le temps fort du 13 novembre. Est-ce qu'il y a des numéros, des plateformes, n'importe quelle ressource qu'il faut signaler, qu'on voudrait rappeler concernant la lutte contre le harcèlement scolaire?
Alors, le numéro, c'est le 3018, qu'on peut appeler ou envoyer un message pour pouvoir avoir de l'aide.
C'est voilà, uniquement pour les victimes? Est-ce que ça peut être aussi pour
non,
les personnes?
Non, ça peut être parents, témoins, victimes. C'est anonyme et gratuit, et c'est vraiment une bonne ressource pour savoir comment agir, que faire, être entendu, être soutenu.
Alors, je note aussi que parmi les mesures contre le harcèlement scolaire, entre le 6 et le 21 novembre 2025, pour tous les élèves du CE2 à la terminale, il y a la possibilité de remplir une grille d'auto-évaluation pour identifier d'éventuelles situations de harcèlement. Donc cette année, les élèves peuvent, pour celles et ceux qui le souhaitent, mentionner nom et prénom pour faciliter la prise en charge des situations signalées. Est-ce que ça, Mélissa, par exemple, toi, tu l'as déjà fait, remplir cette évaluation?
Alors, il y a 2 ans, j'avais déjà rempli un des formulaires, mais c'était complètement anonyme. On n'avait ni droit de mettre de nom, ni rien. C'était vraiment juste pour pouvoir écrire, voir si on savait par rapport justement au numéro, reconnaître par exemple des situations de harcèlement, mais c'était complètement anonyme.
Voilà, c'était plutôt une enquête, mais pas du tout nominative. Et j'oubliais qu'on va aussi inaugurer la boîte aux lettres dans le lycée pour recueillir des témoignages ou des petites choses comme ça.
D'accord, une boîte aux lettres où on peut venir poster un petit mot sur une situation qu'on voudrait signaler.
C'est exactement ça.
Oui.
Ça, c'est vrai que ça manquait, donc ça, année à année, ça y est, on va la mettre en place.
Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous voudriez rappeler, des infos qu'on n'aurait pas données, quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous auriez envie de signaler?
Non, vraiment, rappeler que les élèves ont tendance à croire que s'ils en parlent, ça va s'empirer, mais c'est faux. Il faut toujours, toujours, toujours en parler. À n'importe qui, un adulte de confiance. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que comme ça qu'on peut gérer les situations.
Puis j'imagine qu'il y a une confidentialité, bien une garantie de confidentialité derrière.
On a un contrat de confiance avec les élèves. Si on leur dit qu'on ne va pas en parler, on n'en parlera pas. Si on doit en parler, on les prévient. Je dois en parler parce que c'est grave et on est obligé d'en parler. Mais il y a toujours la confiance. C'est vraiment important.
Eh bien, merci Anaïs et Mélissa. On va vous souhaiter une belle journée du 13 novembre.
Merci beaucoup.
Merci. Alors donc, je rappelle, Anaïs Zuena, vous êtes assistante d'éducation, AED, référente anti-harcèlement au lycée Baudrechasse à Digne-les-Bains. Mélissa Charrier, tu es ambassadrice au lycée Baudrechasse également, ambassadrice depuis l'année dernière. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation pour ce magazine. Et on va se quitter en musique avec Nothing But Time de Cat Power. Merci et très bonne journée.